Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
La situation des chrétiens d'Orient et le conflit syrien préoccupent l'Église et le Saint-Siège. Vous entendrez dans ce magazine un patriarche qui n'a pas peur de fustiger le politiquement correct de l'Occident. Le pape François veut une Église qui marche en présence de Dieu de façon irréprochable et souhaite que le Seigneur libère les chrétiens de la tentation du bon sens. Il a prononcé une nouvelle homélie très remarquée. Le pape François qui va ordonner dimanche 10 nouveaux prêtres formés dans le diocèse de Rome. En France, les opposants au mariage homosexuel préparent leur dernier grand rassemblement avant le vote de la loi mardi à l'Assemblée nationale. Ils estiment que la démocratie française est blessée et attendent de François Hollande qu'il agisse en homme d'État. Enfin, d'émission, nos rubriques hebdomadaires, les livres pour Dieu et le commentaire de l'Évangile. Après une visite en France la semaine dernière, le patriarche de l'église syriaque catholique d'Antioche est actuellement à Rome. Sa béatitude Ignace Youssef III Younan a été reçue vendredi au Vatican par le pape François. Son objectif est de faire entendre une vérité qui dérange. Il est sévère à propos des prétendus combattants syriens pour la liberté qui, selon lui, représentent une majorité confessionnelle et il n'a pas peur de fustiger l'opportunisme occidental. Tout cela alors que l'hémorragie des chrétiens du Moyen-Orient se poursuit.
Nous avons été vraiment honorés. Nous avons eu aussi la joie d'avoir cette audience privée avec le Saint-Père François, qui nous a accordé pas mal de temps pour que nous puissions lui parler surtout de la situation difficile des églises orientales au Moyen-Orient et tout particulièrement des Syriens, les communautés chrétiennes comme les autres communautés. Et le pape nous a vraiment assuré de son soutien fraternel, même paternel, et disons ses efforts afin que une solution pacifique et juste soit réalisée, surtout en Syrie, en Irak, et que les tensions ne soient pas encore plus graves au Liban.
Interrogé par Hélène Détombe, le patriarche syriaque Younan, reçu en audience cette semaine au Vatican. Les chrétiens tièdes sont ceux qui veulent construire une église à la carte, sur mesure. Mais cette église n'est pas celle de Dieu. C'est l'idée maîtresse de l'homélie du pape François ce samedi matin. Ses homélies quotidiennes à 7h dans la petite chapelle de la résidence Sainte-Marthe, en présence des employés du Vatican, invités par petits groupes à tour de rôle, continuent de susciter un vif intérêt. Devant les volontaires du dispensaire pédiatrique du Vatican, confié aux filles de la charité de Saint-Vincent de Paul, le Saint-Père a développé sa réflexion comme toujours à partir des lectures de la messe. L'évangile raconte que des disciples, trouvant le langage de Jésus trop dur, décident alors de s'éloigner. Il nourrissait probablement une certaine admiration pour Jésus, mais de loin, a commenté le pape François. Les chrétiens de ce type ne marchent pas en présence de Dieu et ne font pas grandir l'Église. Ce sont des chrétiens qui font preuve de bon sens et qui prennent leur distance. Contrairement aux chrétiens qui témoignent jusqu'aux martyrs, ces chrétiens tièdes suivent le sens commun et la prudence mondaine. Or, pour le pape François, cette prudence mondaine est une dangereuse tentation.
C'est une tentation propre de prudence mondaine.
En France, le collectif La Manif pour tous ne désarme pas. Une nouvelle manifestation est prévue ce dimanche après-midi à Paris avec sifflets et trompettes. La demande des opposants au texte reste inchangée, une révision de la loi ou un référendum. Le collectif a choisi pour mot d'ordre « Il accélère, on accélère et François t'as plus le choix ». Jeudi soir, c'est encore 80 gardes à vue qui ont été effectués, assortis de quelques coups de matraque. Xavier Sartre.
Dans une ambiance électrique, les organisateurs accusent le gouvernement d'avoir ignorer, dévaloriser et minimiser ce grand mouvement social, historique par son ampleur. Dans un chat sur lemonde.fr, le porte-parole de la Manif pour tous, Tugdahl Derville, estime que le rejet de la pétition contre le projet de loi a tué toute idée de démocratie participative. « Nous avons été traités comme des sous-citoyens », affirme-t-il, en dénonçant par ailleurs l'amalgame qui est fait entre l'homophobie et l'opposition au projet de loi Taubira. Pour lutter contre les débordements, les organisateurs ont mis au point une charte rappelant les principes de non-violence et de respect des biens et des personnes mises en ligne sur leur site internet. À l'inverse des casseurs qui veulent déstabiliser le mouvement et des manifestants plus bruyants, des jeunes ont choisi de faire de la résistance spirituelle. Toute la semaine, ils ont organisé des veillées. À la lueur des bougies, les veilleurs, c'est le nom du nouveau mouvement, ont lu et médité des textes sur la liberté intérieure, l'amour, la lourde responsabilité des indifférents et le destin de la France. Des commentateurs estiment que ce mouvement est devenu symbolique de toutes les exaspérations sociales, sociétales et politiques qui touchent la France. À plusieurs reprises, des hauts responsables du Saint-Siège ont salué la mobilisation des catholiques français contre le mariage homosexuel. Dans le même temps, l'Église condamne fermement toute forme d'homophobie ainsi que le recours à des méthodes violentes et met en garde contre les risques de récupération.
J'ajoute que Benoît XVI lui-même avait demandé aux catholiques de lutter pour la défense du mariage entre un homme et une femme dans les pays où des projets de loi sur ce sujet sont en discussion. En Italie, après un cinquième scrutin sans issue, le chef de l'État sortant, Giorgio Napolitano, a accepté de se présenter devant les grands électeurs pour un second mandat afin de sortir de l'impasse. Au sein de l'épiscopat italien, le président de la Commission pour les questions sociales, l'emploi, la justice et la paix s'était dit favorable à une telle solution. Les évêques italiens lancent un appel pressant à la classe politique afin qu'elle fasse preuve de dignité et de sens des responsabilités. Le pays est au bord de l'abîme, la pauvreté augmente, constate Mgr Briganti. Mais surtout, il y a un décalage croissant entre les problèmes de la population et le comportement des politiques. Et toujours en Italie, la ville de Catanzaro en Calabre accueillait ce samedi un parvis des gentils sur le thème éthique, religiosité et co-responsabilité. Après la rencontre de 2012 à Palerme, le Conseil pontifical de la culture qui organise les parvis a voulu une nouvelle fois affronter le thème de la légalité, une question cruciale dans le sud de l'Italie. L'évêque de Catanzaro a reconnu que des phénomènes d'athéisme et de pollution criminelle s'étaient greffés sur les traditions locales, fondées sur une religiosité souvent superstitieuse qui n'a rien d'authentique. Selon des chiffres de 2011, 27% de la population calabraise est liée à la mafia locale, la 'Ndrangheta, une des organisations les plus puissantes en Europe de l'Ouest, qui domine le trafic de drogue et le racket. Ce dimanche, dans le cadre de l'année de la foi, le jour du Seigneur propose un pèlerinage à Rome sur les lieux sources de la foi, à la découverte des racines chrétiennes. Une émission en direct de la Ville éternelle sera diffusée sur France 2. Les réalisateurs ont voulu partir à la rencontre de Français qui ont choisi de vivre à Rome, familles, séminaristes, religieux, pour leur demander si la foi résonne ici de façon particulière. Mais aussi de suivre les pas de Saint-Pierre et de l'Église primitive pour plonger dans les sources de la foi. Frère Philippe Jaillot, dominicain, producteur du Jour du Seigneur, est passé aussi dans les locaux de Radio Vatican. On l'écoute.
En réalité, j'avais fait ce choix, pendant l'année de la foi, d'offrir deux moments de pèlerinage aux téléspectateurs. Un à Rome et l'autre qui sera à la fin de l'année de la foi à Jérusalem. Pour nous, il s'agit d'emmener les téléspectateurs dans des lieux sources pour notre foi. Et donc, nous commençons là avec Rome. Cela se passera à la Trinité des Monts. La deuxième partie de l'émission nous permettra de nous rapprocher un petit peu de ce lieu source, le tombeau de Saint-Pierre et tous ceux qui ont confessé la foi de l'Église jusqu'aux martyrs. C'est un peu aller se ressourcer dans une Église qui rayonne de cette résurrection du Christ.
Alors ce n'est pas la première fois que le jour du Seigneur se rend à l'étranger.
Non, ce n'est pas la première fois. Chaque année, nous essayons d'aller deux fois à la rencontre de communautés françaises à l'étranger ou de communautés qui sont d'une façon ou d'une autre liées à la France, pour sortir un petit peu de notre territoire, pour rencontrer d'autres chrétiens, d'autres manières de vivre la foi, de la célébrer et d'en parler.
Et sortir du territoire, est-ce que c'est bien perçu par les téléspectateurs du Jour du Seigneur ?
Le retour que nous avons, alors certains sont toujours un peu plus embêtés quand il y a d'autres langues, mais nous pouvons remarquer aussi quand même que justement ce dépaysement, c'est la beauté d'une autre liturgie, d'une autre culture, ne laisse pas insensible les téléspectateurs.
Alors la Trinité des Monts est un lieu très important depuis très longtemps d'ailleurs pour la communauté française de Rome, donc vous allez être un petit peu en France à la Trinité des Monts, mais votre présence à Rome intervient quelques jours après l'élection d'un nouveau pape et son entrée en fonction. Est-ce que vous pensez que ça va jouer dans le déroulement de cette émission et dans la perception que pourraient en avoir vos téléspectateurs?
Alors voyez-vous, en fait, cette émission a été prévue, elle était programmée avant l'élection du pape François. C'est très bien tombé, si je puis dire. Je pense que ce ne sera pas quelque chose qui passera inaperçu pour les téléspectateurs. Et nous nous sommes rendus compte que l'éditorial que nous avions prévu, le contenu, la dynamique de cette émission, nous n'avons pas eu vraiment à y retoucher. Parce qu'en fait, retourner au tombeau de Saint-Pierre, voir les communautés françaises, les Français qui sont là, qui vivent de cette vie de l'Église de Rome... Et nous terminons dans notre émission en allant voir le diocèse de Rome. Nous avons un sujet qui est sur le diocèse de Rome pour montrer que c'est une église comme les autres églises, qui nous renvoie à chacune de nos églises. Eh bien, c'est très bien tombé puisque moi, j'ai été très frappé par la manière dont le pape François s'est bien présenté dès le départ, comme il est l'évêque de Rome et il a son peuple ici. La dynamique de notre émission nous a semblé... convenir tout à fait au pape François. Et j'espère que les téléspectateurs saisiront cela. Je pense en tout cas qu'être à Rome après l'élection devrait leur plaire.
C'était le frère Philippe Jaillot, producteur du Jour du Seigneur. Ce 21 avril, quatrième dimanche de Pâques, appelé le dimanche du bon pasteur, on célèbre comme chaque année la journée mondiale des vocations. À cette occasion, le pape François ordonnera 10 nouveaux prêtres au cours d'une messe à partir de 9h30 dans la basilique Saint-Pierre. 10 nouveaux prêtres, dont 8 jeunes adultes, âgés de 37 à 44 ans, ayant déjà une expérience d'études et de travail. Les futurs prêtres proviennent du Grand Séminaire de Rome, du Séminaire des Oblats et du Collège Rédemptoris. Mater. Le thème de cette journée mondiale avait été choisi par Benoît XVI, l'évocation, signe de l'espérance fondée sur la foi. La liturgie eucharistique présidée par le pape François sera retransmise en direct avec commentaires en français sur le player de Radio Vatican en son et images à l'adresse www.radiovaticana.va. La messe sera suivie de la prière du Regina Celi. Le livre pour Dieu cette semaine pourrait presque être considéré comme un outil pour les missionnaires que nous sommes tous appelés à être. Ce livre s'appelle « Au nom d'une passion, l'évangélisation dans le cœur des saints ». Son auteur est une femme, Thérèse Nadeau-Lacour, docteur en théologie à Québec. Interrogée par Catherine Aubin, Thérèse Nadeau-Lacour nous présente la question à laquelle ce livre répond, à savoir « Comment les saints ont-ils évangélisé ?»
D'abord, c'est une réponse qui est parvenue après des travaux et des échanges avec tout un groupe de théologiens et de personnes engagées en pastorale. On peut dire, je crois, que la question qui traverse le livre porte sur les liens qui existent chez l'évangélisateur, dans l'acte même de l'évangélisation, entre la vie spirituelle de l'évangélisateur, ce en quoi il croit, et puis son acte d'évangéliser, son acte d'annonce aux autres de la bonne nouvelle. C'est sur le lien que porte la question. C'est une question qui n'a apparemment jamais été traitée directement, n'a jamais fait l'objet direct d'un ouvrage. On le retrouve bien sûr en pointillé dans de nombreux textes, y compris d'ailleurs dans les textes du Concile Vatican II, puisque pour le Concile, sainteté et mission sont étroitement unies. Et c'est dans cet esprit-là que nous avons travaillé, en nous demandant non pas quelles sont les méthodes d'évangélisation, cela beaucoup d'ouvrages en parlent, mais justement en deçà des méthodes, dans l'acte fondateur qui est à l'origine de l'acte évangélisateur, comment s'articule chez l'évangélisateur ce lien entre ce en quoi il croit et en fait son acte évangélisateur.
À la page 14, vous dites justement « la nouveauté de l'évangélisation est requise à un autre niveau ». Vous pouvez nous expliquer ?
Oui, alors je fais référence ici au fameux texte de Jean-Paul II à Port-au-Prince en 83, lorsqu'il parle de nouvelle évangélisation et où il dit qu'elle sera nouvelle dans son ardeur, dans ses méthodes et dans ses expressions. Et ce qui nous avait frappé, c'est le fait d'abord qu'ils mettent l'ardeur en premier. Et nous avons beaucoup tendance à l'heure actuelle à nous interroger de manière un peu crispée sur que doivent être les méthodes de la nouvelle évangélisation, comment être efficace, etc. Il nous a semblé d'ailleurs à toute l'équipe que c'était une question seconde et même sur le plan ontologique, elle est seconde. Ce qui est premier, c'est l'ardeur et Jean-Paul II la met en premier. Et nous sommes demandés vraiment quelle est la source de cette ardeur. Et cette ardeur ne vient pas d'un contexte extérieur. Cette ardeur trouve sa source vraiment à ce niveau, comme vous venez de le dire, à cet autre niveau qui est celui très intime de la rencontre de l'évangélisateur avec celui-là même qu'il annonce. S'il y a une nouvelle évangélisation, elle va d'abord s'enraciner dans un esprit renouvelé qui est celui qui doit trouver au fond du baptisé, en fait, pas seulement des grands évangélisateurs, mais de tout baptisé, qui doit retrouver au fond de la grâce baptismale ce lien étroit entre la grâce reçue qui nous unit au Christ et à la vie éternelle, et puis l'annonce de l'Évangile. Il y a les deux fils de la vie chrétienne qui sont en fait l'union au Seigneur dans notre vie spirituelle, se mettre à la suite du Christ. Et l'autre nécessité que nous a rappelé Vatican II et tous les pontifes depuis, qui est la nécessité de l'annonce, de l'évangélisation, eh bien, ces deux fils-là font une trame qui est la trame de la vie chrétienne. On ne peut pas les séparer. Et c'est cette idée de ne pas séparer, mais où sont-ils unis ? Et réponse, dans le cœur même des évangélisateurs.
Le livre de Thérèse Nadeau-Lacour, Au nom d'une passion, l'évangélisation dans le cœur des saints, est paru en janvier 2013 aux éditions Arthège. Dernier volet de ce magazine, comme chaque semaine, nous retrouvons le père Pascal Montavis pour le commentaire de l'évangile de ce 21 avril, quatrième dimanche de Pâques, et c'est l'évangile selon saint Jean, chapitre 10, versets 27 à 30. Je suis le bon pasteur, mes brebis écoutent ma voix, je leur donne la vie éternelle. Le père et moi, nous sommes un.
L'évangile de ce quatrième dimanche de Pâques nous présente Jésus comme le bon pasteur et nous-mêmes comme ses brebis. Pour bien comprendre cette image, nous pouvons laisser résonner une autre parole de Jésus : « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Voyons cela plus en détail. « Je suis le chemin ». Le bon pasteur est celui qui marche devant ses brebis. En disant cela, le Seigneur nous rappelle que c'est lui qui a guidé son peuple du désert jusqu'à la terre promise par une colonne de nuée le jour et de feu la nuit. C'est lui encore qui nous montre le chemin vers le Père afin que nous découvrions toujours plus notre identité de fils de Dieu. Ce chemin passe par le Golgotha, mais il ne s'arrête pas là. Il continue jusqu'à la résurrection. Je suis la vérité. Le bon pasteur est celui qui entre par la porte alors que le voleur, lui, entre par une autre voie. En d'autres termes, Jésus agit en plein jour. Il dit ouvertement la vérité aux hommes car c'est elle qui les rend libres. Jésus promet aux disciples à la fois la vie éternelle et la persécution. Il ne cache pas aux apôtres que la porte qui mène au salut est étroite. Le bon pasteur est donc celui qui conduit ses brebis en vérité sans leur cacher ni les joies, ni les dangers qui les attendent. Je suis la vie. Le bon pasteur se distingue du mercenaire car il donne sa vie pour ses brebis. Lorsque le mercenaire voit le loup arriver, il s'enfuit et laisse les brebis être dévorées. Jésus, lui, donne sa vie. Personne ne la lui prend. Par ce don de lui-même, Jésus nous acquiert le salut. Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. C'est le désir de Dieu que nous ayons la vie et la vie en abondance. Jésus est donc le bon pasteur. Ses brebis écoutent sa voix et le suivent. La question que nous pouvons nous poser en ces jours où nous célébrons la résurrection est la suivante. Est-ce que je connais la voix de Jésus ? Si nous rentrons en nous-mêmes et que nous nous posons cette question, quelle est notre réponse ? Quel est le son de la voix de Jésus ? Que me dit-il ? Pour reconnaître le bon pasteur, il nous faut passer du temps avec lui. Dans l'adoration du Saint-Sacrement, nous pouvons nous habituer à sa voix, comme le bruit d'une brise légère. En lisant la Bible, nous pouvons entendre sa parole qui nous dit « Suis-moi ». En allant régulièrement à la messe, nous apprenons à le reconnaître, à être attentif à ses appels. En priant le chapelet, nous sommes aux côtés de la Vierge Marie qui nous guide vers son Fils. À chacun de nous, le Seigneur donne une manière particulière d'écouter la voix du bon pasteur et de le suivre. Ouvrons donc les oreilles de notre cœur afin de le reconnaître et de nous réjouir du salut qui nous est offert.
« Et c'est sur ce commentaire du Père Pascal Montavi que s'achève notre émission. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur notre site internet à l'adresse www.radiovaticana.va, sur notre page Facebook Radio Vatican en français, sur Twitter, ainsi que sur vos tablettes et smartphones grâce à notre application en français. Bon dimanche à tous.